France Info.
Bonsoir, les Français soutiennent de moins en moins les Gilets jaunes. Ils sont aujourd'hui tout de même 52% à souhaiter la poursuite du mouvement contre deux tiers il y a un mois. Selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, nous analyserons dans les informés ce reflux de l'opinion lié notamment aux violences à répétition lors des manifestations du samedi. Les Français, dans un même temps, s'intéressent au grand débat mais doutent fortement de son utilité finale. Avec des questions qui restent posées, qui va le piloter et surtout sur quel thème? Marlène Schiappa, elle, porte plainte après avoir reçu des tombereaux d'insultes et de menaces. Peut-on réguler le débat sur les réseaux sociaux? Éternelle question. L'une des conséquences d'un mois et demi de contestation, 60% des radars dégradés en France, c'est le contribuable qui paiera la facture au final. Donald Trump arrive au Texas et menace de décréter l'état d'urgence si le Congrès ne finance pas son mur. Nous joindrons sur place notre envoyé spécial permanent Grégory Phillips. On en parle de tout cela avec nos invités. Bonsoir à vous, Jannick Halimi.
Bonsoir Jean-François Quilly.
Bienvenue Jannick, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France. À mes côtés également, bonsoir à vous, Fatima El-Ouazdi.
Bonsoir.
Présidente fondatrice de Politiquel. Pascal Richet est avec nous ce soir. Bonsoir Pascal.
Bonsoir, bonne année.
Bonne année, bien joué, directeur adjoint de l'OP. Et cofondateur de Rue 89, également invité. Bonsoir Arnaud Benedetti.
Bonsoir.
Spécialiste de la communication politique, professeur associé à la Sorbonne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Peut-on parler de lassitude? Seulement un Français sur deux, 52% contre 48%, souhaite la poursuite du mouvement des Gilets jaunes. Ils étaient deux tiers il y a un mois. Principal enseignement donc de cette enquête, hein, Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, effectué hier et aujourd'hui par Internet auprès d'un millier de personnes. Le rappel de ces principaux résultats avec vous, Gaël Sliman, le président d'Odoxa.
On a un net reflux du souhait des Français de voir ce mouvement se poursuivre. Symboliquement, on a encore une petite majorité, hein, on est à 1 sur 2, mais bon, 52% qui disent j'ai envie que ça se poursuive, et 1 sur 2 estime que ça doit s'arrêter. Mais on note une courbe qui est tout à fait spectaculaire au reflux, et on a un autre élément qui pourrait être préoccupant pour les Gilets jaunes, c'est qu'on a maintenant, j'en parlais déjà la semaine dernière, mais c'est encore plus net cette semaine, un clivage énorme au sein de la population, avec des pans entiers de la société française qui, jusqu'à présent, soutenaient le mouvement des Gilets jaunes et souhaitaient qu'il se poursuive, et qui, depuis ce début d'année, depuis la rentrée de janvier, nous disent « Non, maintenant, ça doit s'arrêter ».
Jannick Halimi, comment interpréter ce reflux, hein, pour reprendre l'expression de Gaël Sliman?
Oh bah, je pense que ça peut se résumer très facilement. Il y a eu un déferlement de violences tous azimuts dans la rue, sur les réseaux sociaux, contre les permanences d'hommes politiques, contre les sites, les lieux même de la République, de certains ministères, l'Arc de Triomphe, des volontés d'entrer, en tout cas verbalement, à l'Élysée. Le mouvement dure depuis deux mois. Donc ce sont des violences qui ne sont pas que des violences physiques pour la violence physique. Il y a des atteintes à la stabilité du régime, en tout cas c'est ressenti comme ça, et on peut le croire de la part évidemment de certains Gilets jaunes, mais aussi d'une partie de la classe politique qui n'a certains ayant incité, tout cas soutenu tout cela, d'autres ne parlant pas assez fort pour freiner ces violences contre, encore une fois, la République. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a aussi, si l'on veut être un peu positif tout de même, mais je vais être très prudente là-dessus, parce que même les pouvoirs publics et le gouvernement, il y a eu tout de même des gestes politiques, financiers, faits par le gouvernement. Je veux parler des 10 milliards d'euros en faveur de la prime d'activité, etc. Donc il y a quand même des gestes qui ont été faits. Bon, ben, l'opinion publique, pour le moment, dit stop, on fait la pause. Maintenant, la partie n'est pas, entre guillemets, gagnée. Pour ceux qui ne sont pas les Gilets jaunes, il faut attendre la suite des événements politiques, notamment avec le grand débat.
Le débat de la semaine prochaine. Pascal Richet, tout de même, 52%. On pourrait lire le sondage avec le verre à moitié plein, si je puis dire.
Moi, ce qui me surprend, c'est effectivement qu'une majorité de Français continue à soutenir ce mouvement, malgré toutes les images qu'on a vues, les images de violence.
Tout ce qu'a évoqué à l'instant Jannick Halimi.
Exactement, y compris des actions anti-républicaines. Enfoncer la porte d'un ministère, c'est pas républicain. Les menaces de mort... Effectivement, ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, l'incendie d'une préfecture, enfin, on peut faire la liste, c'est quand même très spectaculaire. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, notamment YouTube, tout ça fait que dans ce mouvement social, on a particulièrement une abondance d'images de violence. Dans les précédents, il y avait aussi des violences qu'on ne voyait pas, mais là, on les voit quasiment toutes. Donc ça, il y a un effet d'accumulation. Mais malgré tout cela, malgré toutes ces images...
Ça vous surprend, hein, le 52%, vous paraît...
Oui, d'autant plus que oui. Effectivement, Emmanuel Macron a fait un geste. Alors, évidemment, les Gilets jaunes trouvent que c'est pas assez, mais 10 milliards d'euros, c'est pas rien dans un équilibre de politique économique.
Fatima El-Ouazdi, alors dans le détail, hein, selon l'enquête, hein, finalement, tous les acteurs sont jugés un peu responsables de ces violences. Le gouvernement, 70%, l'opposition, 65%, et pour la première fois, les Gilets jaunes... 63%, au fond, c'est un petit peu une sorte de responsabilité partagée, violence repoussoir quand même. Hein.
Bien sûr, je pense que les Français seront quand même attachés à la 5e République, aux institutions, et qu'au fur et à mesure, le maintien de l'ordre et l'ordre public doit être garanti. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, la violence ne semble pas décroître. On a des scènes absolument dingues, ne serait-ce que le fait de voir des vidéos de la porte d'un ministère qui se fait
casser. Oui, tous les trois, vous évoquez le même épisode. C'est celui que vous retenez finalement de ce week-end.
Oui, parce que moi, ça m'a choqué que...
Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
On s'attaque à la
République. Vous, c'est la symbolique forte de cet acte 8, je crois, des Gilets jaunes.
En fait, il faut transférer tout ce qui se passe dans la rue au sein du grand débat national. Il ne faut pas continuer, en tout cas, à avoir des scènes de guerre civile à l'extérieur où on boxe des flics, où on boxe des CRS. Ce n'est pas la République que je veux voir. Moi, ce que je souhaite, en tout cas, qu'il se passe et qui se traduise aussi dans l'opinion publique, c'est que au-delà même des annonces qui ont été faites par le gouvernement, si les gens sont plus ou moins l'impression que ça représente pas grand-chose pour eux, alors que c'est quand même 10 milliards, eh bien, soit, mais on peut pas rester dans une crise politique pareille. Il faut qu'on puisse en débattre calmement, il faut que les gens puissent exprimer leurs opinions politiques, leurs opinions sur la démocratie, sur la fiscalité, sur les politiques publiques, sur les services publics, sans voir forcément des scènes de guérilla.
Arnaud Benedetti, si vous le permettez, je vais vous soumettre un clivage au sein de ces fameuses 52%. On va le détailler avec vous, chiffre à l'appui de cette enquête Odoxa, mais tout de suite le rappel de l'info à 20h10 sur France Info avec vous Thomas Bénèche.
Une nouvelle audition au Sénat pour Alexandre Benalla le 21 janvier. Avant cela, mercredi prochain, la commission des lois convoque le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Il sera question de l'usage des deux passeports diplomatiques en possession d'Alexandre Benalla, document que ce dernier a restitué hier. De nouveaux débris du Mirage 2000 disparus hier ont été retrouvés cet après-midi dans le Jura. Les membres de son équipage, deux militaires, un homme et une femme, sont toujours introuvables. Des recherches se déroulent sur les hauteurs de Mignovillard, plus de 150 quand gendarmes sont mobilisés. Réunion extraordinaire des administrateurs de Renault ce soir au siège du constructeur automobile à Boulogne-Billancourt. L'ordre du jour de ce rendez-vous n'a pas filtré. Il se tient après la première comparution devant la justice japonaise de Carlos Ghosn, PDG de la marque Losange. Il est soupçonné dans le pays de malversation financière. Le président américain Donald Trump est arrivé au Texas. Il doit plaider une nouvelle fois en faveur de la construction de son mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique. Un projet auquel les démocrates sont opposés, d'où une paralysie partielle de l'administration fédérale en ce moment.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Arnaud Benedetti, il y a un clivage hein, dans ce premier résultat de l'enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro. Les deux tiers des Français aux revenus les plus modestes souhaitent la poursuite du mouvement. C'est 67% contre 32%. Allez, deux tiers, un tiers on va dire. Mais les concitoyens les plus aisés, c'est-à-dire des revenus supérieurs à 3500 euros par mois, c'est l'inverse. 62% souhaitent l'arrêt du mouvement contre 38%. Qu'est-ce que l'on peut déduire de ce regard détaillé sur ce résultat, selon vous, Arnaud Benedetti? Il y a une forme de fracture?
On en revient aux fondamentaux sociologiques de cette mobilisation. On sait très bien que cette mobilisation est l'expression d'une France qui se sent perdante de la mondialisation, une France qui se sent dépossédée économiquement, une France qui se paupérise, et il n'est pas du tout étonnant que ça soit, disons, les classes populaires et une partie des classes moyennes qui aujourd'hui soutiennent ce mouvement. Moi quand même, pour en revenir sur le sondage, je suis frappé et je vous rejoins quand même sur le soutien qui reste encore extrêmement important, d'autant plus qu'il y a d'autres sondages qui montrent que le soutien est un peu plus important également. Donc compte tenu de la longueur de la mobilisation quand même, ça fait presque 2 mois que l'on se mobilise tous les samedis, régulièrement, avec des violences. Quand même, le mouvement des Gilets jaunes a, d'une certaine manière, alors pas tous les Gilets jaunes, bien évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame en l'occurrence, mais a quand même réintroduit l'idée que la violence pouvait instaurer un rapport de force et un rapport de force positif pour leurs revendications. Je trouve quand même que ça nous dit quelque chose sur le fonctionnement de notre société et sur les liens au régime, parce que là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer, c'est que on est face à une question institutionnelle qui est en train de se poser. Et que la question de l'adhésion à la Ve République se pose. Elle se pose pas forcément à la République, mais
ça va
au régime.
Là, selon vous, oui.
Écoutez, je crois quand même que la question de la crise de la représentation politique, elle est quand même liée aux institutions.
La question du rôle
du président de la République, il est lié aux institutions. Donc, quand même, il y a une question qui se pose à travers cette mobilisation, qui est une question institutionnelle.
Jeannick Halimi.
Moi, je pense qu'il faut aussi faire attention avec le sondage, tous les sondages quels qu'ils soient, par rapport aux questions posées, aux
toujours, sens toujours, bien sûr,
et surtout à la préhension.
Photographie d'un instant.
Oui,
dire,
oui, et puis
là,
surtout
la question
la
est claire. C'est est-ce que vous souhaitez que le mouvement se poursuive?
Oui, oui,
est-ce que vous soutenez ou est-ce que vous avez de la sympathie?
Je suis d'accord. Il n'y a
pas d'ambiguïté.
Ce n'est pas dans le soutien, c'est dans le mouvement. Il faut bien faire la part des choses. Il y a certainement des gilets jaunes ou des gens qui ont été sondés qui estiment, comme vous le dites, qu'il faut aller très loin dans la réforme des institutions, dans la remise en cause du régime, peut-être, et dans la remise en cause des institutions de la Ve République.
Qu'est-ce que vous voulez dire, alors? Pourquoi ce bémol?
Je mets une prudence. C'est pas un bémol ou un dièse que je mets. Je dis que derrière ce mouvement, parmi les 52% des gens qui soutiennent ce mouvement, ça ne veut pas dire, premièrement, qu'ils soutiennent.
Parce que Richet précise,
parce que soutenir, ça veut rien dire. Les sondages, est-ce que vous
souhaitez ça ne veut pas dire, je pense, j'en sais rien, faudrait peut-être leur poser une question ou une sous-question, que la violence se poursuive. On peut continuer à soutenir un mouvement dans son aspect contestation, dans son aspect revendication et dans son aspect solution à apporter à leur propre doléance et à leur propre revendication, eux, citoyens sondés, citoyens de base, catégorie de la population qui gagne 2000 ou 3000 euros, pardonnez-moi, je ne sais plus quel est...
3500
euros. Net. Ces gens-là qui veulent que le mouvement se poursuive, ça veut peut-être dire aussi que ils souhaitent que le gouvernement ne pense pas que si les ronds-points sont vidés et qu'il n'y a plus de mobilisation le samedi,
leur revendication
retombe. Ils peuvent vouloir se faire entendre de façon différente, peut-être dans le grand débat, peut-être au moment des prochaines élections, notamment les européennes. Voilà ce que je veux dire. C'est ni un bémol ni un dièse. Je veux dire que poursuite du mouvement, ça ne veut pas dire la violence, ça ne veut pas dire remise en cause du régime pour tous ceux qui sont dans les 52%. Non,
juste un point.
Encore un mot, et il faut qu'on explore l'autre aspect du sondage.
Je veux dire, je pense que quand même ce mouvement exprime malgré tout aujourd'hui la question institutionnelle, c'est-à-dire que en effet, il y a des Français qui ne se sentent plus représentés.
Ça peut passer par la forme d'un référendum.
Le problème, c'est qu'une démocratie représentative ne représente plus aux yeux d'un certain nombre de Français.
D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'ils soutiendraient une insurrection comme certains partis ou certains gilets jaunes le souhaitent. Ça peut vouloir dire changer les institutions. Mais de façon totalement démocratique,
vous faites bien,
par une réforme, soit par un référendum. Alors
vous faites bien de souligner cet aspect des choses, puisqu'il est question évidemment, éminemment, également du grand débat, et notre enquête a sondé notre panel de 1000 personnes sur la question de cette fameuse concertation nationale. Tout le monde en a entendu parler, 81%, et pour cause, on en parle tous les jours dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux, dit Odoxa Dentsu Consulting, 34%, qui aimeraient bien y participer. Ça fait quand même un bon tiers des Français, mais 7 Français sur 10 estime qu'il ne sera finalement pas utile ce débat pour le pays, car tous les sujets ne pourront pas y être abordés, c'est ce que dit l'enquête, et parce qu'il pense qu'il ne sera pas mené de façon indépendante par le pouvoir, donc, ou du pouvoir, indépendante du pouvoir, bien entendu. Et pourtant, il faut ce débat, c'est ce qu'a estimé ce matin le maire de Pau et président du mouvement démocrate, François Bayrou. Il était l'invité de la matinale de France Info.
Il le faut. On a vécu une période de trouble, et il faut qu'on sorte de cette période de trouble. Il y a absolument besoin de remettre de l'ordre dans les esprits. Il faut qu'on soit un pays qui se tienne et pas qu'on s'enfonce dans cette espèce de déliquescence que l'on voit, que l'on sent, pour lesquels il y a des gestes, des images qui sont insupportables.
Alors Fatima El-Ouazdi, François Bayrou dit il faut ce débat, il est membre de la majorité, il faut le rappeler. 7 Français sur 10 qui estiment que la concertation ne sera pas utile, qui émettent des doutes sur, au fond, sa légitimité. Comment on en sort ?
Je pense qu'il y a la responsabilité aussi des représentants politiques d'opposition à aussi dire, mais en fait, nous aussi, on va se saisir de ce grand débat national et y participer.
Pour l'instant, il n'y a que les Républicains.
Il n'y a que les Républicains et il y a aussi la République En Marche qui a créé des groupes de travail au sein de la majorité. Pour
la majorité, forcément. Oui.
Mais je veux dire, il y a quand même un problème dans le sens où il y a des responsables politiques qui sont irresponsables politiquement parce qu'ils ne veulent pas, jouer le jeu de ce grand débat et participer. Parce que si on n'a pas un moment politique fort où toutes les oppositions puissent s'exprimer en fait sur les thèmes qui ont été arrêtés. Bien sûr, moi, je regrette à titre personnel que tous les thèmes ne soient pas potentiellement abordés, notamment.
Qu'est-ce que vous pensez à
quoi ? Je pense notamment à l'immigration. Je pense que c'est un sujet qui aurait dû faire partir
de. C'est un sous-sujet d'un des quatre.
Pascal Richet, c'est un sous-sujet. Hein.
Oui, ça reviendra à travers la citoyenneté.
Mais je pense qu'il faut parler. Il faut
vous
pas
auriez aimé
tabou.
L'intitulé sur l'immigration, un vrai intitulé.
L'intitulé qui a été supprimé, qui a été premièrement annoncé, qui a ensuite été retiré. Je pense que ça envoie le message justement aux Gilets jaunes et à ceux qui les soutiennent, potentiellement ces 52%, que ce débat finalement, il est truqué par avance. C'est ça le risque, c'est qu'on a l'impression que le débat ne servira à rien, alors que justement, c'est le gouvernement qui organise ce débat-là, c'est pour calmer la contestation dans la rue, la passer dans un moment un peu institutionnalisé où tout le monde, toutes les sensibilités puissent s'exprimer, où les maires jouent le jeu de collecter les doléances, où les doléances sont analysées par la Commission nationale.
Pour l'instant, c'est en cours, enfin, ça n'a pas démarré. Et là, Pascal Richet, est-ce que les partis politiques ont vocation à être présents avec leur étiquette dans ce type de débat ? Non.
Je pense que tout le monde a vocation à participer à ce débat. Il faut que ce soit quelque chose de très large et ouvert aux corps intermédiaires, aux syndicats, aux associations, au monde associatif, aux maires. Et les maires, il y en a parfois qui sont encartés politiquement. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop... C'est pas un face-à-face entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Ce serait terrible de faire ça. Il faut au contraire élargir. Pour moi, la bonne méthode, ce serait de faire des conférences de consensus, avec des jurys, enfin des commissions dont une partie serait tirée au sort, où il y aurait quelques experts pour l'information, etc. Et discutent jusqu'à trouver des solutions ensemble. C'est ce genre de choses qu'il faut trouver.
Bah, il faut quand même un moment d'union nationale. Je suis désolée d'insister, mais il faut un moment d'union nationale où tous les partis politiques et tous les responsables politiques s'unissent pour trouver une solution à cette crise politique. C'est pas le cas, mais c'est quand même dramatique qu'on puisse pas avancer sur des sujets qui sont quand même fondamentaux sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur l'évaluation des politiques publiques. Je suis pas sûr que...
Il faut pas non plus opposer cela à la démocratie représentative. On a quand même un Parlement, des gens élus, etc. Il faut pas les exclure
allons poursuivre sur le thème, rassurez-vous, à 20h20 sur France Info. Tout d'abord, un rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le grand débat national pour sortir de la crise des Gilets jaunes aboutira-t-il à des mesures utiles pour le pays ? Non, estime 70% des Français. La grande majorité d'entre eux émettent également des doutes sur l'indépendance de cette consultation vis-à-vis du pouvoir. Résultat ce soir de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Un cadre de la SNCF mis en examen aujourd'hui dans la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013. Jusqu'à présent, seules 2 personnes morales étaient dans cette situation, la SNCF et Réseau Ferré de France. Le déraillement de ce train intercité à Brétigny avait fait 7 morts, une dizaine de blessés. La répression des fraudes soupçonne venteprivée.com de tromperie sur les prix. Le site internet aurait pratiqué des tarifs de référence fictifs pour proposer des réductions alléchantes. La DGCCRF estime que ce procédé a conduit à une concurrence déloyale. Elle a transmis ses conclusions à la procureure de la République de Bobigny. L'Allemagne a remporté ce soir son tout premier match du mondial de handball. Victoire 30-19 sur la Corée. Depuis 5 minutes maintenant, le Chili affronte lui le Danemark. La France, de son côté, entame la compétition. Demain, ce sera face au Brésil.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis, il y a le problème du pilotage, du débat. Le départ de Chantal Jouanneau a généré un trouble, on l'a vu. La présidente de la Commission nationale du débat public est épinglée. Son salaire mensuel brut de 14 666 euros n'a toujours pas démissionné. Elle doit quand même en tirer les enseignements, a déclaré Benjamin Griveaux ce matin, le porte-parole du gouvernement sur RTL.
Je trouve assez incompréhensible, je le dis, qu'elle s'en soit elle-même exclue. Je trouve que c'est un rendez-vous manqué et je trouve ça dommage. C'est à elle d'en tirer les enseignements ou à la commission de le faire.
Alors, je vais vous demander des réponses assez courtes, les uns et les autres, pour qu'on puisse débattre là-dessus. Jeannick Halimi, elle doit vraiment démissionner dans son coin de cette commission, c'est ce qu'il semble dire.
Pourquoi dans son coin, enfin,
parce qu'elle n'organise plus, le débat en question, c'est pour ça.
Il faut quand même rappeler que, il faut quand même rappeler que la commission organise plusieurs dizaines de débats dans l'année, et de façon très indépendante, très objective et très professionnelle sur des projets locaux d'infrastructures, de ponts, de contournement de villes avec des autoroutes, etc. Mais vous avez raison, le grand moment pour cette commission que personne ne connaissait, c'était évidemment ce grand débat national. On ne va pas relancer cette polémique sur son salaire, on en passera ce qu'on voudra. Toujours est-il que c'est vrai que Chantal Jouanneau, qui abandonne cette fonction d'animatrice, de ce grand débat, se met un peu hors jeu, pas dans son coin, mais se met un peu hors jeu, et que la logique, je sais pas si c'est la logique institutionnelle, mais la logique éthique, je dirais, ou opérationnelle, voudrait qu'elle tire sa révérence, quoi.
De l'institution elle-même. Pascal Richer, vous partagez le point de vue de Jeannick Halimi. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'au fond, Édouard Philippe, puis Benjamin Griveaux semblent agacés par ce retrait de Chantal Jouanneau, comme si elle les avait pris de court.
Oui, c'est vrai. Et le fait qu'ils soient agacés montre l'indépendance de cette commission, en fait, puisque finalement, ils ne peuvent pas grand-chose. C'est une commission qui est indépendante. Le fait qu'elle soit très bien payée est aussi probablement considéré comme une condition d'indépendance de la commission. On dit qu'il faut bien payer les autorités, les responsables de commissions indépendantes pour qu'ils soient plus indépendants du pouvoir.
C'est autonome.
Je ne sais pas si c'est un argument très valide, mais en tout cas, il est souvent servi. Après, bon, son choix, ça la regarde. Moi, je n'ai pas tellement de jugement à porter. Son salaire... je crois qu'il y a des centaines de hauts fonctionnaires qui touchent des salaires très élevés dont on ne connaît pas le montant d'ailleurs. Et à mon avis, c'est un problème qu'il faudra peut-être aborder. Elle l'a dit elle-même, Chantal Jouanneau.
Un des sujets du futur débat.
De ce débat, puisque c'est vrai qu'il y a une opacité sur le traitement des hauts fonctionnaires qui n'est pas normale. Le problème n'est pas compliqué, il faut trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer.
Alors justement, Arnaud Benedetti, il faut des figures emblématiques, il faut des incarnations pour...
En tout cas, ce qui est clair, c'est que compte tenu de la polémique sur son salaire, elle n'incarnait plus le moment. Un moment où vous avez une demande d'égalité, une remise en question des élites, une contestation d'un pouvoir qui est considéré comme hors sol, il va de soi que Madame Jouanneau n'était pas le bon vecteur pour animer le débat. En tout cas, d'ailleurs, elle s'est considérée comme n'étant plus le bon vecteur pour animer le débat. Donc elle a pris une décision qui est une décision sage, mais sans démissionner par ailleurs de la commission nationale du débat public.
Donc il y a quelque chose
qui rajoute de la confusion à la confusion. Mais le problème, si vous voulez, de cet outil du grand débat national, c'est qu'en fait, s'il y a un scepticisme de la part des Français, c'est que tout simplement, il y a un scepticisme par rapport à toute parole publique aujourd'hui. C'est bien le problème. C'est la remise en question de la parole publique aussi qu'incarne ce mouvement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, explique une des racines politiques de ce mouvement. C'est aussi le référendum de 2005. Il y a quelque chose qui pèse dans les consciences, qui pèse dans l'opinion, sur le fait que finalement, le pouvoir s'est assis sur les résultats de ce référendum à travers le traité de Lisbonne. Alors, ce n'est pas formulé ainsi par les Gilets jaunes, mais on sent bien qu'il y a aussi ce retour du refoulé.
C'est une mèche lente dans l'opinion.
C'est une mèche lente.
Oui, mais cette crise de la représentation, on la trouve aussi dans d'autres pays qui n'ont pas eu le référendum de 2005, comme les États-Unis.
Pour poursuivre ce que vous dites, Arnaud Benedetti, Fatima El-Ouazdi, est-ce qu'il faut, oui ou non, une nouvelle incarnation ou un comité de sages pour garantir, du moins même en façade à ce débat, une forme d'indépendance?
Je pense qu'il faut au moins quelqu'un qui incarne ce grand débat national.
Vous avez une idée sur le casting, pardon, pour l'anglicisme?
J'ai pas d'informations et j'ai pas d'idée non plus, mais je pense qu'il faut quelqu'un qui soit indépendant politiquement, une grande personne politique, une grande personnalité politique qui puisse incarner ce débat et montrer que voilà, il y a un mouvement, ce que je disais tout à l'heure, d'union nationale afin de parvenir à des conclusions, à des réformes, à une traduction de ce qui s'est passé dans la rue politiquement et surtout démocratiquement. Et je pense que c'est dommage parce que Chantal Jouanneau incarnait quelque part une ouverture politique intéressante et qu'apparemment son travail, ce qu'a dit Jeannick Halimi, c'est qu'elle le faisait très bien en tant que dans la tête de l'autorité.
En tout cas, n'était voilà, pas apparemment,
c'était. Vous avez une petite idée, Jeannick Halimi, bon, de casting
je,
ou
non, non. Je n'ai aucune idée. Je suis pas sûre que dans les sphères.
Mais c'est nécessaire ou pas
Oui, quand même. Oui. C'est nécessaire que qu'il y ait une sorte de crible, de comité des sages, qui donne effectivement du poids, de la notoriété, de l'objectivité et donc de l'efficacité pour restituer, puisque ça s'appelle comme ça, la restitution de toutes les doléances qui auraient été collectées. Mais quand même, je m'inscris, pardonnez-moi, Fatima, en faux par rapport à deux de vos
allez-y
expressions. Une personnalité politique, ça dépend ce qu'on entend politique. C'est pas obligatoirement un homme politique étiqueté politiquement. Mmh. Ça peut être un sage, ça peut être quelqu'un qui a fait...
Et la deuxième,
c'est l'Union nationale. Moi, je ne suis pas sûre que le débat débouche sur une Union nationale. Non. Un débat, c'est qu'il y a des positions qui sont opposées, tranchées, et que le gouvernement le dit et le répète, sa ligne politique, qui a été celle d'Emmanuel Macron
de
en 2017, doit rester la même.
C'est l'heure de la pause. 20h28 sur France Info. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des Informés.
Sur Dell.fr, les bonnes affaires reprennent pour bien commencer l'année. Profitez des soldes sur Dell.fr sur une sélection des meilleurs PC Pro Dell dotés de processeurs Intel Core 8e génération. Les soldes pour votre PME, c'est maintenant sur Dell.fr ou appelez nos conseillers Dell.
Salut Nicolas, pour bien vous réveiller, rendez-vous dès 7h demain sur France Info. Tout ce qu'il faut savoir avant d'entamer votre journée. Avec toute l'équipe de la matinale, bien sûr. Il y aura Anne-Laure Danier pour la politique, Céline Baydarcourt à la recherche de ses infomédias, Fanny Guinochet pour l'écho et puis Xavier Monferrand, bien sûr, pour les sports. Sans oublier tous les autres qui seront là. On compte sur vous dès 7h demain.
France Info Météo avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Les prévisions de la météo avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Gris au nord demain, plus ensoleillé au sud, de la Méditerranée aux Alpes, encore du soleil et du vent fort jusqu'à 90 km à l'heure. Du sud-ouest au Lyonnais et au sud du Jura, des éclaircies, mais aussi des nuages bas et des brouillards, parfois givrants le matin. Plus au nord, ça se couvrira, on aura quelques gouttes ici ou là. Entre les Ardennes, l'Alsace, le nord de la Bourgogne et de la Franche-Comté, un peu de neige possible jusqu'en plaine. Avant, on pourrait avoir des brouillards givrants vers le Limousin, le centre, le Val-de-Saône. Le matin, les gelées seront nombreuses. Pour avoir un petit peu de douceur, on ira vers la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, où il fera 3 à 7 degrés. L'après-midi, comptez 0 à 2 degrés sur le nord-est, 2 à 4 sur le centre, Rhône-Alpes, le Massif central, le sud-ouest, 5 à 8 degrés ailleurs et jusqu'à 13 vers la Côte d'Azur ou la Corse.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Le tribunal correctionnel de Lyon rendra sa décision le 7 mars dans le procès du cardinal Barbarin et de 5 anciens membres du diocèse de Lyon. Le parquet n'a requis aucune condamnation, arguant de la prescription des faits et de l'absence d'entrave à la justice de l'archevêque et de ses co-accusés. Tous comparaissaient pour non-dénonciation d'agression sexuelle commise par un prêtre du diocèse sur de jeunes scouts avant 1991. Le site vendeprivé.com, une fois encore épinglé par la répression des fraudes. D'après la DGCCRF, le site aurait alléché ses clients avec des prix cassés. Mais finalement, les tarifs affichés n'étaient pas si intéressants que cela, Sophie Oving.
Des prix barrés qui donnent l'illusion de faire une bonne affaire, mais en fait, des annonces trompeuses. Voilà la conclusion de l'enquête menée par la DGCCRF. La direction de la consommation et de la répression des fraudes a passé au crible le site de vendeprivé.com, des ventes événementielle, et elle a repéré ses taux de promotion affichés particulièrement intéressants. Alors toujours la même présentation, un prix de référence barré, et puis un nouveau tarif très attirant. Le problème, c'est ce prix de départ qui ne correspond à aucune réalité économique selon la DGCCRF, en clair, un chiffre fictif. Le tribunal de grande instance de Bobigny devra dire ce qu'il en pense, mais ce n'est pas la première fois que vendeprivé.com se retrouve dans le collimateur. En février 2017, le site avait été condamné à de lourdes amendes, comme 18 autres e-commerçants, et toujours pour des promotions truquées.
Sophie Auvigne, l'avenir de Carlos Ghosn à la tête de Renault en suspens ce soir alors qu'une réunion extraordinaire du conseil d'administration du groupe a lieu près de Paris. Le PDG est toujours incarcéré au Japon. On apprend aujourd'hui qu'il n'est plus résident fiscal en France depuis 2012, mais aux Pays-Bas. Quant à l'audit interne lancé par Renault sur les éléments de rémunération de Carlos Ghosn, eh bien il a conclu à leur conformité, à l'absence de fraude concernant les années 2017 et 2018. C'est ce qu'indique ce soir le groupe automobile dans un communiqué. Du jamais vu en France pour une pétition en ligne. Plus de 2 millions de personnes ont signé en moins d'un mois le manifeste de l'affaire du siècle en faveur d'un recours contre l'État pour une action climatique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le texte publié le 18 décembre par plusieurs ONG avait recueilli un premier million de signataires en seulement 36 heures. Ford et Jaguar vont supprimer des milliers d'emplois en Europe. Les deux constructeurs veulent améliorer leur rentabilité et faire face à un marché automobile mondial de plus en plus difficile. Jaguar Land Rover, désormais propriété de l'Indien Tata Motors, va ainsi supprimer 4500 emplois, pour l'essentiel au Royaume-Uni. Ford n'a pas divulgué de chiffres ni cité de pays en particulier. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue.
(20h-21h) France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités. Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Fatima El-Louazdi, présidente fondatrice de Politiquel, avec Pascal Richer, directeur adjoint de l'Obs et cofondateur de Rue 89, et avec Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique et professeur associé à la Sorbonne. Nous avons largement évoqué dans la première partie des informés le grand débat. Eh bien, un autre débat se déroule sur les réseaux sociaux. Il devient toujours plus violent. Pour s'être élevé contre la cagnotte en soutien à l'ancien boxeur Christophe Détinger, placé en détention provisoire dans l'attente de son procès après l'agression de deux gendarmes samedi dernier à Paris, eh bien, Marlène Schiappa a essuyé une pluie de menaces et d'insultes. Trop, c'est trop. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes porte plainte. Elle l'a annoncé chez nos confrères de France Inter ce matin.
Depuis 18 mois, un peu plus maintenant que je suis au gouvernement, je fais partie, comme beaucoup de femmes en politique, eh bien, je suis la cible d'opérations, de menaces de mort, de cyberharcèlement ciblé, d'appels haineux, menaçants, injurieux, etc. Et là, ça a effectivement dépassé un stade, et donc j'ai considéré que ça valait de déposer une plainte pour les milliers de menaces de mort, d'injures et de cyberharcèlement coordonnées, reçues en quelques 24 heures, oui.
Fatima El-Louazdi, Marlène Schiappa porte plainte, mais que faire ?
C'est le problème en fait de la régulation des plateformes numériques, ces fameuses plateformes Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Où finalement il est devenu très facile de se coordonner, de poster des contenus haineux, d'insulter, de menacer. Moi-même, à chaque fois que je fais un tweet sur la politique en général ou que je fais une intervention, je reçois des menaces, je reçois des insultes totalement gratuites. Et c'est le problème, c'est comment on fait pour réguler toute cette haine en ligne qui se développe. Comment on fait ? Il y a des modèles qui ont été développés de régulation, notamment en Allemagne, où un contenu Facebook, les grosses plateformes de plus de 2 millions d'utilisateurs doivent censurer, entre guillemets, mais retirer les contenus qui ont été signalés.
C'est aux plateformes d'agir, vous dites.
Je ne dis pas ça parce que moi, justement, j'estime que c'est pas juste, on ne doit pas déléguer à 100% aux plateformes la seule régulation des des contenus. Il doit y avoir aussi la justice. La justice doit aussi pouvoir être compétente, d'avoir les moyens d'investiguer, de condamner les personnes qui commettent ces troubles et qui finalement nuisent à la liberté des femmes en politique, mais des femmes en général, d'utiliser les réseaux sociaux, de pouvoir s'exprimer. Je trouve que ce n'est pas sain dans une démocratie d'avoir ce genre de comportement.
Pascal Richer, vous aviez cofondé Rue 89. Est-ce que le ton a changé depuis l'époque ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a eu une massification des personnes qui apportaient des contributions sur les réseaux sociaux et sur toutes ces plateformes. Et puis, je pense qu'il y a les algorithmes ont changé aussi. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, les mauvais sentiments de l'homme font plus de clics et donc plus de profits que les bons sentiments. La confiance, il faut du temps pour l'établir. La défiance, ça va très vite. La haine, ça suscite beaucoup plus d'émotions que l'affection. C'est comme ça, c'est ainsi. Notre cerveau est ainsi fait que nos mauvais sentiments sont plus facilement captés par ces réseaux sociaux qui adaptent leurs algorithmes petit à petit pour essayer de faire plus de clics, plus de partages, etc. Donc ça, c'est un véritable problème. Et je pense effectivement que ces grands réseaux, notamment Facebook et Twitter, ont des responsabilités. Je me souviens qu'à un moment, Twitter ne voulait pas retirer les tweets antisémites.
Oui.
Elle disait, moi, je dépends de la loi américaine. Aux États-Unis, on a le droit d'avoir des propos antisémites, donc je ne retirerai pas. Bon, finalement, ils ont accepté de le faire. Mais il faut aller beaucoup plus loin, je pense. Il faut qu'ils aient une responsabilité, un peu plus d'éditeurs, un peu moins d'hébergeurs.
Gianni Calimi, plus de régulation, vous le dites aussi ce soir ?
Oui, plus de régulation et au-delà de la nature animale mauvaise que nous avons. Nous, il y a aussi la loi de l'argent. La loi sur les fake news que vous connaissez bien, je pense, Pascal, met bien le doigt sur cet élément-là de la problématique des propos de haine ou des fausses nouvelles complotistes véhiculées par tous les réseaux sociaux. Je veux dire par là que c'est pas seulement les algorithmes qui font que quand on clique, l'algorithme se déclenche et qu'on passe de 1000, 3000, 10 000. Cet emballement nécessite de l'argent. Pour que ça aille aussi vite que ça et de façon aussi massive, tous les spécialistes du net vous expliquent qu'il faut qu'il y ait des sponsors qui financent, parce que je donne quelques milliers, dizaines de milliers...
Mais pas dans le cas de ces messages de haine contre
pas dans ce scénario-là.
J'élargis un petit peu la problématique, c'est pas seulement les messages. Mais tout de même, c'est quand même très important, parce que les racines sont les mêmes. C'est quand même tout ce que peut véhiculer le net et les réseaux sociaux qui nécessitent de l'argent, des sponsors et
l'argent
la loi,
moteur, vous dites.
L'argent est moteur parce que ça fait monter en épingle et la loi sur les fake news n'est pas du tout destinée à censurer les informations entre guillemets qui circulent, mais à repérer qui sont les sponsors pour éventuellement faire des attaques et procéder à des poursuites judiciaires contre ces sponsors qui financent les propos antisémites ou xénophobes, homophobes, toutes les thèses complotistes que l'on connaît malheureusement.
Arnaud Benedetti, pour prolonger ce qui est dit à l'instant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce que ça traduit aussi une sorte de d'emballement général dans un climat de haine ?
Ça traduit indéniablement une dégradation de l'espace public, si vous voulez. Il y a Tocqueville a une expression pour parler des conditions justement d'acceptabilité du débat public et des institutions. Il parle de l'état des mœurs. Et il dit à un moment donné, quand l'état des mœurs finalement traduit une forme d'inacceptabilité des institutions, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, qu'on le veuille ou non. Alors les réseaux sociaux, bien évidemment, amplifient, si vous voulez, cette espèce de violence à la fois sémantique et de contenu également. Parce qu'il y a deux choses, il y a la tonalité et le contenu. Il y a la tonalité qui est très violente, et puis il y a les fake news, les contenus qui peuvent être aussi des contenus qui viennent quelque part, à un moment donné, déformer la réalité. Il y a ces deux aspects. Mais je crois que surtout, au-delà des outils, parce que finalement, il y a eu des campagnes de presse aussi très violentes par le passé, il faut jamais l'oublier. Au-delà des outils, ce qui est caractéristique aujourd'hui, c'est une forme de dégradation du débat public. Mais aussi, il y a autre chose qui est important et qu'il faut prendre en compte, c'est que les réseaux, parce qu'ils sont pas régulés aujourd'hui, mais permettent aussi un élargissement de l'espace public. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas voix à l'expression aujourd'hui trouvent une voix à l'expression. Il faut aussi se poser la question, finalement, il y a aussi cet aspect-là qui est important sur le plan démocratique et sur le plan pédagogique.
Un aspect positif, donc.
Qui est plutôt assez positif aussi. Il ne faut pas seulement voir la face noire des réseaux, qui est indéniable.
Oui, mais si ça devient un espace public, et que c'est plus une multiplication et une addition d'espaces privés, il faut donc le réguler. Et il faut que d'une façon ou d'une autre, on trouve une parole qui régule, une loi, un instrument qui régule ces réseaux sociaux.
Nous allons en dire encore quelques mots sur la question, mais permettez-moi de marquer une pause. 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Aucune fraude constatée dans la rémunération de Carlos Ghosn au sein de Renault. C'est le résultat de l'audit interne lancé par le constructeur automobile. Il a été présenté ce soir lors d'une réunion des administrateurs de la marque aux losanges. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir sous-déclaré ses revenus au Japon. 48% des Français souhaitent désormais l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes en France. Ceux dont les revenus sont les plus modestes réclament en revanche à 67% que la mobilisation se poursuive. Résultat ce soir de notre sondage au Doxa Dentsu Consulting. pour France Info et Le Figaro. La CGT et Solidaires n'iront pas demain à Matignon. Ils étaient invités à une réunion portant sur les modalités du grand débat national pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Le Premier ministre doit recevoir à partir de 9h les représentants des différentes organisations patronales et syndicales. Solidaires juge qu'il n'y a aucun sens à se rendre à ce rendez-vous. Après un peu plus d'un an d'activité, c'est terminé pour June. La compagnie aérienne à bas coût d'Air France va fermer. Les 600 hôtesses et stewards seront réintégrés au sein de la maison mère.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant les plaintes que va déposer Marlène Schiappa, qui a fait l'objet d'insultes, de menaces sur le net après ses récentes déclarations. Fatima El-Ouazdi, il y a aussi éminemment l'aspect sexiste des messages qui ont été envoyés à l'encontre de la ministre, enfin de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes.
Tout à fait. En fait, sur les réseaux sociaux, souvent, les femmes politiques sont systématiquement sexualisées avec des insultes, des montages. On a vu aussi la nouvelle congresswoman Ocasio-Cortez aux États-Unis, dont on a posté un faux nude, une fausse photo nude d'elle, qui a été relayée par certains médias américains, alors que c'était un fake. Donc en fait, il y a cette sexualisation des femmes politiques qui est grave et qui doit être, enfin en tout cas, on doit lutter. C'est pour ça qu'il faut soutenir la ministre qui porte plainte. Et nous, on en débattra dans une journée le 24 janvier prochain, Ensemble contre le sexisme, sur justement la liberté des femmes en ligne, sur ce fameux espace public que vous évoquiez, Yannick, qui doit être régulé, parce qu'on ne peut pas tout dire. Certes, il y a une liberté de parole, mais la liberté ne doit pas évidemment conduire à une forme de mal-être en ligne pour les utilisateurs et les utilisatrices.
Arnaud Benedetti, sur cet aspect-là des choses, finalement, quelque part, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Hein.
La question de la régulation, c'est très compliqué, on le voit bien. De toute façon, tous les médias, à leur naissance, ont besoin de régulation. Il y a eu des problèmes de régulation pour l'ensemble des médias. Je crois qu'en fait, la difficulté aujourd'hui qui se passe, à laquelle on est confronté, c'est qu'on est avec des médias qui, encore une fois, permettent finalement une expression immédiate et une capacité d'interpellation de tout un chacun qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est la réalité à laquelle aujourd'hui on est confronté. On voit bien qu'un ministre peut, en effet, être interpellé sur les réseaux, peut être malheureusement insulté, et que on n'a pas aujourd'hui réussi à trouver les moyens de réguler cela. La difficulté, c'est que, en fin de compte, les mauvais sentiments sont malheureusement une réalité des sociétés. C'est bien ce que vous disiez. Et comment, à un moment donné, on arrive finalement à contraindre l'expression de ces mauvais sentiments, c'est, je veux dire, un problème qui va au-delà de l'outil même. Donc, il y a aussi des questions d'éducation, au débat public, d'éducation au respect de l'autre, à la façon dont on doit s'adresser. Ouais, ça aussi, ça se construit presque dès l'école, je dirais. Et l'outil en soi n'est pas suffisant. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la contrainte, il faut qu'il y ait aussi quelque part la prévention et l'éducation.
Il faut agir a priori, a posteriori. Il y a deux actions. Il y a le a priori à l'école, donc l'éducation aux réseaux sociaux, l'éducation aux médias, à ne pas avoir de la défiance envers les médias, parce que quand on voit les théories conspirationnistes qui se développent, qui se propagent à une vitesse incroyable, quand on voit qu'il y a des gilets jaunes qui prennent la parole sur des plateaux pour justement dire à peu près pour relayer des théories conspirationnistes, oui, c'est qu'il y a un travail à faire à la fois a priori et a posteriori, et condamner les propos négationnistes, les propos racistes, les propos homophobes qui peuvent avoir lieu à la fois sur les réseaux sociaux et dans la rue aussi.
Allez, ce n'est pas un fake news, mais un chiffre a retenu notre attention aujourd'hui. Jusqu'ici, le gouvernement ne donnait aucune indication sur la détérioration, voire la casse des radars fixes. Il y en a 3200 sur l'ensemble du territoire français depuis le démarrage du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est alors que Christophe Castaner, vous allez le voir très brièvement, a révélé ce chiffre en marge d'une cérémonie de vœux à la gendarmerie nationale.
Près de 60% des radars aujourd'hui ont été neutralisés, attaqués, détruits par celles et ceux qui se revendiquent de ce mouvement-là.
Alors, Yannick Halimi, c'est ce que donc a dit Christophe Castaner, un statistique du ministère de l'Intérieur. 2000 radars donc auraient été visés, 60% d'eux, etc. Ça fait 2000. C'est le contribuable qui va régler la facture au final. Sujet que vous abordez régulièrement dans Le Parisien.
Hein. Oui, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va l'aborder demain. Également, ça va faire notre une de demain. Oui, très rapidement, ça touche ces dégradations à répétition. Ça touche à tout ce que tous tous les problèmes que nous venons de soulever. C'est évidemment le déferlement de la violence, le déferlement vers tout ce qui est l'institution républicaine, quelque part, puisque ces radars donnent la loi, enfin affichent la loi, nous disent quelle vitesse respecter. Oui. Au nom, en plus, de la sécurité routière et pour économiser des vies humaines. Et de façon plus concrète, parce que c'est ça aussi qui remonte un petit peu au bout de 2 mois de mobilisation des Gilets jaunes. On parlait beaucoup de pouvoir d'achat, de la taxe écologie, on parlait des institutions, etc., etc. Mais n'oublions pas, et là, petit à petit, les hommes et les femmes politiques recommencent à en prendre conscience, c'est que les 80 km/h avaient été le début du mécontentement, oui, notamment de ces zones écartées qui n'avaient pas de transport public, de service public, de mobilité, etc. Et là, avec les radars, c'est 2 mois après le début, l'origine et peut-être une sorte de synthèse de toute cette colère des Gilets jaunes qui est symbolisée.
Pascal Richer, Jeannick Halimi n'a pas tout à fait tort en disant, elle a même plutôt raison.
Un petit peu, toujours. Je ne fais que répéter ce qu'on me dit.
Toujours, en évoquant les fameux 80 km/h, Jeannick Halimi, qui était une mesure défendue mordicus par le Premier ministre Édouard Philippe, c'était sa mesure emblématique. Selon vous, Pascal Richer, elle a été un petit peu l'élément déclenchant de ce vaste mouvement des Gilets jaunes.
Ça a été un des éléments déclenchants. La vitesse, c'est comme la bagnole, c'est la liberté. C'est-à-dire que voilà. Et là, on a bridé une liberté. Et moi, je suis très frappé par ce qui se passe sur les radars, parce que c'est vraiment très, très symbolique. Déjà, c'est une forme de totem, c'est une forme totémique. Ça ressemble un peu à un personnage humain, mais debout. Ensuite, c'est l'œil de l'État qui vous regarde, qui vous surveille. C'est votre liberté qui est bridée. C'est la fiscalité aussi.
Ouais, donc,
ce contre quoi luttent les Gilets jaunes. Enfin, ça croise à peu près toutes les lignes
du combat des Gilets
jaunes. On oublie quand même que
c'est pour défendre des vies humaines. Hein.
Voilà. Il paraît que les radars ont sauvé 23 000 vies depuis en 15 ans. Donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est vrai que les casser est absolument inconscient et irresponsable. Mais en tout cas, je trouve que ça colle très bien comme symbole, ça colle très bien avec le combat des Gilets jaunes.
Arnaud Benedetti, vous feriez-vous également de la poésie? Ce sont des sortes d'entités un peu mécaniques, un œil qui nous regarde. Il y a quelque chose d'Orwell dans ce que vous décrivez.
Oui, c'est vécu
mais
comme
aussi
ça.
Nécessaire pour la sécurité des citoyens sur les routes. Ces 80 km/h, ça aurait été une erreur?
Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une France périphérique qui se pose la question de la mobilité parce que, tout simplement, les gens ont besoin de prendre leur véhicule et qu'il n'y a pas de mode de transport alternatif, la question, en tout cas, du transport a été véritablement l'élément déclenchant. Mais la question des 80 km/h, bien évidemment, on a bien vu commencer à poindre un certain nombre de signes qui étaient avant-coureurs et qui caractérisaient bien aujourd'hui la colère qui existe dans ces zones, à travers notamment cette mesure. Et on voit bien que ça a été un enjeu d'ailleurs politique, puisque manifestement c'est le Premier ministre, l'élu local d'ailleurs au demeurant, oui, qui a forcé la décision d'un président de la République qui était beaucoup plus prudent en l'occurrence sur cette mesure.
Allez, nous allons faire dans
Gérard
un...
Gérard Collomb, souvenez-vous, qui avait été posé la question lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur, avait sorti son joker, donc disant implicitement qu'il était contre.
C'est vrai que ça avait tangué, on peut dire ainsi, les choses dans les rangs du gouvernement.
C'était le seul homme politique de ce gouvernement.
Allez. Il y avait Jacques Mézard aussi, à l'époque, ministre de la Cohésion des Territoires,
dans une autre vie, cher Jeannick Halimi. Allez, 20h50 sur France Info. Dans un instant, nous faisons un détour par les États-Unis, mais tout d'abord le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Alexandre Benalla de retour devant le Sénat pour y être entendu le 21 janvier. Avant cela, dès mercredi prochain, la commission des lois convoque le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Ils seront interrogés sur l'usage des 2 passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, document restitué par l'ancien chargé de mission à l'Élysée hier. Le grand débat national pour sortir de la crise des Gilets jaunes va-t-il aboutir à des mesures utiles pour le pays? La réponse est non pour 70% des Français. La grande majorité d'entre eux émettent également des doutes sur l'indépendance de cette consultation vis-à-vis du pouvoir. Résultat de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Donald Trump est au Texas. Il doit y faire la promotion de son projet de mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique. Les démocrates sont opposés à ce chantier. Le sujet provoque actuellement une paralysie partielle de l'administration fédérale. L'Allemagne vainqueur de la Corée 30-19 ce soir pour son tout premier match du mondial de handball. En ce moment, le Chili affronte lui le Danemark. La France, de son côté, entamera la compétition. Demain, ce sera face au Brésil.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Thomas Benesch l'évoquait à l'instant, Donald Trump prêt à recourir à l'état d'urgence si le Congrès refuse de débloquer les crédits qu'il réclame pour construire ce mur à la frontière avec le Mexique. Le président américain est arrivé au Texas. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant permanent de France Info à Washington et envoyé spécial au Texas. Vous êtes sur zone, Grégory. Est-ce que la population locale soutient le président des États-Unis ? Grégory Phillips.
Ah bah écoutez, c'est oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est assez partagé, puisque sur l'aéroport de McAllen, où je me trouve et où le président Trump est arrivé il y a quelques minutes, eh bien, il y a deux manifestations. La première pour dire « construisez ce mur, build that wall », respectez cette promesse, et ce sont évidemment les supporters de Trump, ils sont entre 200 et 300. Puis juste en face, il y a les anti-Trump, les anti-murs qui eux manifestent et disent « eh bien, nous n'avons pas besoin de murs ici, il y a beaucoup de latinos, vous savez, ici, à cette frontière, du côté texan ». Ne construisez pas des murs, mais des ponts. Et il faut évidemment renoncer à ce projet. Ce projet qui est venu défendre Trump ici sur le terrain. Il participe en ce moment à une table ronde sur l'immigration. Et puis il ira dans quelques instants, un peu plus tard dans l'après-midi ici, sans doute sur la frontière le long du Rio Grande. Alors,
le président des États-Unis, en quittant la réunion à la Maison-Blanche, a dit, paraît-il, bye-bye à Nancy Pelosi, la patronne de la présidente de la Chambre des représentants, et à Chuck Schumer, qui est le responsable des démocrates au Sénat. Grégory, est-ce que les États-Unis vont rester bloqués longtemps comme ça avec ce shutdown ?
Alors, c'est une question à laquelle personne n'a de réponse, mais on a l'impression en tout cas que personne ne veut céder. Trump ne veut pas céder. Il veut ce mur. Il le dit, il le répète, il l'a promis. Présidentielle de 2016, il veut construire ce mur à 5,7 milliards de dollars. Et les démocrates, ils ne veulent pas céder non plus. Ils sont maintenant majoritaires à la Chambre des représentants. Ce serait une erreur politique grave de céder et de dire oui à Trump sur ce projet de mur. Donc, on voit que les deux positions sont absolument antagonistes et que pour l'instant, en tout cas, au 20e jour de paralysie partielle des administrations, personne ne semble vouloir faire un compromis. Chacun reste sur ses positions et on s'achemine sans doute vers le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Vous savez, le record, c'était 21 jours, donc on est très proche. C'était en 95 sous Clinton et peut-être que dans les prochaines heures, Donald Trump aura à son crédit le shutdown le plus long de l'histoire de ce pays.
Merci à vous, Grégory Phillips, notre correspondant permanent envoyé spécial au Texas. Donc, merci pour ce direct au cœur de l'action à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Je me tourne vers vous, Pascal Richer. Ce Donald Trump, finalement, nous fait le show permanent.
Permanent. Et là, je pense qu'il veut battre le record du plus long shutdown, parce qu'il aime bien battre des records. Donc voilà, il s'accroche à cette idée de mur, qui est une idée... c'est un gadget, parce que pour contrôler une frontière, on n'a pas besoin de mur aujourd'hui. On a des drones, on a des capteurs, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment un gadget qui coûte extrêmement cher. Voilà, il s'accroche, il n'accepte pas la victoire à la Chambre des représentants, qui est la Chambre qui est chargée de voter le budget aux États-Unis, la victoire des démocrates. Comment ça va se terminer, je ne sais pas, mais c'est intéressant à suivre en tout cas. Mais bon, il y a quand même 800 000 personnes qui sont prises en otage dans cette histoire. C'est les 800 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés.
Arnaud Benedetti, Donald Trump avait fait récemment sensation en annonçant le retrait des troupes américaines de Syrie, mais il n'en est rien. Elles sont toujours sur place. Est-ce que on peut croire décemment à ce président quand il annonce qu'il va notamment recourir à l'état d'urgence ?
Non, mais il y a une constante avec Trump, c'est son imprévisibilité. Ça, c'est absolument, la caractéristique du personnage qui fait vraisemblablement, d'une certaine manière, le fait qu'il attire l'attention et les regards. Mais il y a deux choses dans cette affaire, moi, qui me frappent. Un, le mur, c'est un marqueur très fort, puisqu'il l'avait promis, il le fait, donc il veut aller jusqu'au bout, il veut montrer qu'il respecte ses engagements. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas ce qui permet de préserver une frontière, loin de là. Deuxième point, moi, ce qui est intéressant, c'est quand même sur le fonctionnement de la démocratie américaine, c'est que quand même, on est dans un système qui est profondément démocratique aux États-Unis. C'est cette leçon qu'il faut recevoir, et quand on fait la comparaison avec d'autres institutions en Europe, et notamment avec nos institutions, on voit qu'il y a là un débat. Alors, c'est vrai que ça entraîne un blocage, mais c'est quand même quelque chose. Il y a une leçon, à travers ce blocage, il y a une leçon de démocratie qui est donnée par ce grand pays que constituent les États-Unis. Je trouve que ça, quand même, c'est c'est intéressant.
Ce que disait votre correspondant est très intéressant. Ces deux manifestations côte à côte. Moi, j'ai vu ça. J'étais correspondant aux États-Unis pendant 6 ans. J'ai vu ça plusieurs fois devant la Cour suprême ou même à l'époque du débat Bush-Gore. Vous savez, on comptait recompter les voix en Floride. Oui. Ben, il y avait des manifestations de gens très très hostiles les uns vis-à-vis des autres, mais très respectueux aussi.
Fatima El-Ouazdi, il y a évidemment au cœur de cette affaire, si je puis dire, la question des migrants, évidemment, qui est, vous le dites, le mur est un marqueur et qui est au cœur du débat américain.
Je pense que la question de la migration, en tout cas qui vient du Mexique, est cruciale et c'est un des points saillants en fait de ce pourquoi Donald Trump a été élu. Et donc s'il venait à céder sur son projet phare, et surtout quand on le lit sur Twitter, ses déclarations où il fustige un peu la position des démocrates en disant que les démocrates jouent avec le feu, que ce sont les démocrates qui sont qui dit qu'il est le meilleur président, le mieux élu de toute l'histoire des États-Unis, qu'il a été élu pour ces mesures-là fortes sur l'immigration et que les Américains
il avait moins de voix que Clinton.
Je ne fais que le citer pour dire, voilà, il est dans son délire littéralement, où il faut absolument que ce qu'il a dit, il le fasse, et ce envers et contre visiblement le régime présidentiel américain qui est plutôt équilibré avec ses midterms qui font que il n'y a pas forcément concordance entre les chambres et la majorité présidentielle, et donc oui, c'est compliqué. Allez. C'est un tournant politique pour Trump, je pense, ce shutdown. Oui.
Allez, je rappelle que nous avons un Trump et son shutdown, Theresa May dans l'impasse du Brexit, une Madame Merkel qui est proche de la sortie, un Emmanuel Macron et les Gilets jaunes. Décidément, ça se passe pas si bien que ça en Occident. Jeannick Halimi, c'est le mot de la fin. Vous allez nous rappeler ce qui est à la une du Parisien.
C'est justement la contre-attaque du corps politique, social, de l'opinion publique contre les 80 km/h à travers le vandalisme vis-à-vis des radars, donc du politique, du routier, du
Pascal Richet, la une de l'Obs.
La une de l'Obs, c'est sur un sujet dont on vient de parler, les fake news. Effectivement, c'est fake news qui sont produites dans certaines fermes à fake news dans les pays de l'Est. Donc on a un reportage là-bas et une enquête de l'université de Cambridge qui montre que les Français n'échappent pas du tout à ce phénomène.
À lire dans l'Obs. Merci à vous, Pascal Richet, Jeannick Halimi, Fatima El-Ouazdi et Arnaud Benedetti d'avoir participé à ces Informés de France Info. Demain, vous retrouvez mon ami Olivier Delagarde. Bonne soirée.